programa Tribuna Desportiva tem o patrocínio.
SNB, la société nouvelle de Balestière, vous propose une large gamme de produits alluvionnaires, calcaires et recyclés. SNB, toujours à vos côtés pour aller plus loin.
Radio Alpha.
Radio que nos liga.
Tribuna do Mundial.
Boa noite, segunda hora da Tribuna do Mundial, Tribuna Desportiva que muda de pele, por assim dizer, de Mundial, de Desportiva passa a Mundial, mas vamos continuar a ser desportivos, claro. Na primeira hora tivemos connosco o Tonel, assim como o Fabien Varéry, o novo treinador do Lusitanos de Samor, que jogou na Académica, jogou também na Naval 1º de Maio, em Portugal, conhece a realidade do futebol português, conhece também a realidade do futebol francês, mas já vamos falar com ele sobre a seleção francesa, sobre o Mundial, mas para já vamos ao ténis, já tínhamos começado antes de terminar esta primeira hora. Sempre digo ainda no futebol que os Países Baixos estão a ganhar o Uzbequistão, adversário de Portugal, por uma bola a zero, e a França está a bater a Irlanda do Norte por uma bola a zero. Vamos lá voltar então ao ténis, já falámos um bocadinho dos vencedores, Marco, deste torneio. Já agora não sei se tens todos os vencedores, também não será se calhar muito importante falar disso. Espera aí, sim, diz.
Quase todos, pelo menos talvez os mais importantes. Então eu disse o Alexander Zverev venceu do lado dos masculinos, derrotando o italiano Flavio Cobolli em 5 sets, mais de 4 horas para vencer o italiano. Do lado das femininas foi a russa Mira Andreeva, de 19 anos, oitava cabeça de série, que venceu a polaca Maja Szwalińska, que saiu das qualificações, incrível. Quer dizer que jogou todos os jogos, participou em 3 semanas de prova, 10 jogos, mas foi uma derrota pesada, 6-3, 6-2 em apenas 1 hora e 20 minutos. Depois também tens nos pares masculinos, foi a dupla hispano-argentina Marcelo Granollers e Horácio Zeballos. Nas femininas, duplas também a checa e a norte-americana Katerina Siniaková e Taylor Townsend. E nos pares mistos, os italianos Sara Errani e Andrea Vavassori, estes que eliminaram na primeira ronda o português Francisco Cabral, que estava a fazer par com a australiana Hélène Pérez. Também destacar nos júniores, na vertente singulares, a vitória da russa, nas femininas, mais uma russa a vencer em Roland Garros, a Alisa Oktiabreva. E o brasileiro Luiz Guto Miguel venceu nos júniores, mas foi no torneio principal também que houve uma grande surpresa. É João Fonseca, exatamente, o brasileiro, que eliminou entre outros o Novak Djokovic, e depois conseguiu chegar aos quartos de final, onde foi eliminado pelo checo Jakub Mencic. Mas foi um percurso interessante para o brasileiro, ele que começou por agradecer os adeptos brasileiros presentes durante o torneio.
Eu acho que o suporte da torcida brasileira com certeza me ajuda. A emoção que eles botam dentro de quadra, a vibe que eles botam, a atmosfera que deixam a quadra, eu acho muito legal. Muitos jogadores até acham legal jogando contra mim, então eu acho que fica um ambiente legal, desde que seja respeitoso com o adversário. E eu acho que eles agiram super bem esse torneio. Foi uma torcida que me ajudou nos momentos difíceis. Teve 2 partidas que eu tava 2-7-0 e eles lá apoiando. Então, com certeza, me ajuda. E eu acho que é brincadeira ali de falar torcida de futebol, falar qualquer outra coisa. Acho que é mais torcida brasileira, um pouco da cultura do futebol, mas acho que sinto um pouco a vibe ali brasileira e me ajuda. Acho legal o ambiente aqui em Paris, sim, e a torcida vem uma vibe muito boa.
O fato de você ter ido mais longe que você foi aqui, o que que significa para você? Como é que você sai desse Roland Garros e também um pouquinho da partida de hoje?
Eu me sinto bem. Eu acho que, apesar da derrota, foi um caminho muito bom. 2 semanas muito positivas, de muito trabalho duro, bastante aprendizado, e 2 semanas em que eu não botava muita expectativa. Cheguei aqui sem muita expectativa e consegui ter um ótimo resultado, meio que voltando ali um jogo em que estava quase perdido, muito dominado na segunda rodada. Então, feliz com a semana no final. Acho que a partida de hoje foi mérito do Jakub, e eu acho que terminar dessa forma foi muito positivo. Então agora é seguir com a cabeça erguida e voltar para casa, resetar e partir de novo para a próxima gira. Eu acho que ter tido essa experiência de ir mais fundo num torneio tão grande é importante para mim. É lidar com pressão, lidar com resetar depois de um jogo muito bom, e não é quer dizer que no jogo seguinte você vai jogar igual. Ter um dia de descanso também é diferente. É descanso, né? Mas você acaba treinando, é para recuperar recuperar. E me traz mais experiência, com certeza, me traz confiança, por exemplo, no meu físico, no meu mental. E eu acho que, obviamente, a grama é muito diferente do saibro, um jogo muito mais rápido, um jogo muito diferente, percepção diferente, mas acho que jogar 5 sets é muito diferente de jogar 3, então ter tido essa experiência aqui em Roland Garros me traz, acho que, um pouco mais de experiência em grandes lãs em geral.
De notar que Gustavo Kuerten, que venceu 3 vezes Roland Garros, esteve presente para apoiar o seu compatriota João Fonseca, que, claro, os adeptos brasileiros esperam que seja ele um dia a levantar novamente o troféu dos mosqueteiros e vencer novamente para o Brasil esse torneio. Lembrar que Portugal fez também história, 7 participantes em Roland Garros, 3 nos quadros principais, Francisco Cabral nos pares, mistos e masculinos, e também Nuno Borges e Jaime Faria nos singulares. Nas qualificações também tivemos Henrique Rocha e Frederico Silva nos homens, e Francisca irmãs. E Matilde Jorge Germás nas femininas. Histórico então Portugal, 7 a participarem em Roland Garros.
Em termos gerais e globalmente, assim, em termos de rodapé, Marco, o que é que se poderia dizer? Uma edição de 2026 a corresponder às expectativas?
Surpreendente, sobretudo. Com tantas surpresas, viu-se nas femininas, número 1 mundial, Sabalenka a ser eliminada, Iga Swiatek, que venceu já 4 vezes, a Roland Garros também foi eliminada, Coco Gauff, que tinha vencido na temporada passada e que esperava-se que ela pudesse bizar em Paris, não conseguiu, apesar de ser uma das estrelas do ténis feminino. É quase uma surpresa ver a jovem Mira Andreeva vencer, mas será que é o chamado one shot? Quer dizer, uma vitória e desaparece, ou não? É uma jovem jogadora, tem 19 anos, foi formada em França, tem agora como treinadora a espanhola Conchita Martínez, que fez uma final, mas que perdeu frente à francesa Mary Pierce. Do lado dos masculinos, é verdade que foi a surpresa total, no sentido em que Carlos Alcaraz estava a trabalhar para estar presente, acaba por desistir, por lesão. Já anunciou também que não ia estar em Wimbledon, na Inglaterra, por essa mesma lesão. Não se sabe se isto é, ao fim e ao cabo, mais grave do que o previsto e quando é que ele poderá regressar. Sinner, que é o número 1 mundial, imbatível, mas que ainda não conseguiu vencer, Roland Garros, acaba por ter um coup de chaud. Não se percebeu muito bem o que aconteceu, com ele a vencer por 2-7-0, servir, acho que era por 5-1, e a servir para fechar o jogo, acaba por ter esse coup de chaud e acaba por perder frente ao argentino Juan Manuel Cerundolo, que nem é um especialista de terra batida, e quase que se esperava ver o Djokovic voltar a vencer um grande slam. Acaba por ser derrotado pelo jovem brasileiro em 5 sets, quando se esperaria que a experiência de um Djokovic frente a um jovem pudesse ser mais importante. Não, o brasileiro conseguiu ser mais forte fisicamente, então é aqui uma mudança também de geração, pelo menos Djokovic viu talvez os limites agora, e que será complicado voltar a vencer um grande slam, apesar das ausências de Alcaraz e de Sinner. E a final de Zverev acabou por ser um dos favoritos, aquele que é o número 3 mundial, aquele que se via como o vencedor, e teve muitas dificuldades frente a Coboli, novamente como a Mira Andreeva. Não sei se não vai ser o one shot para Zverev e nunca mais voltar a vencer este torneio.
No caso, está feito.
Ele tinha perdido no US Open frente a Dominic Thiem, o austríaco, que venceu uma vez o US Open, perdeu 2 vezes em finais de Roland Garros, e nunca mais se viu Dominic Thiem. Aliás, já está reformado também, já não joga ténis. Será que é isso para o Zverev? Veremos. Mas já perdeu pelo menos 3 finais. E em Wimbledon, relva, Sinner, eu acho que o Sinner e o Djokovic vão tentar pelo menos ter uma pequena vingança. Não sei se o Zverev, é que também tem muitos altos e baixos, e viu-se na final frente ao Coboli, que hoje é 10º mundial, mas que no início do torneio era 14º mundial.
Muito bem, Marco, vamos agora voltar novamente ao futebol. Vamos ouvir a conferência de imprensa de Renato Veiga, jogador do Villarreal. Foi então o porta-voz do grupo esta tarde. Vamos ouvi-lo.
O nosso balneário, acima de tudo, acho que é o nosso maior trunfo. O ambiente que se vive dentro da seleção no dia-a-dia é muito bom mesmo. São grandes seres humanos, grandes pessoas, e como disse anteriormente, facilita muito a forma como nos exprimimos tão naturalmente dentro de campo. Acho que independentemente de quem jogue, acho que vai dar o máximo para Portugal e acho que isso é o mais importante, porque obviamente que há sempre uma concorrência muito, muito forte, porque Portugal é uma das melhores seleções do mundo e há muita qualidade na nossa equipa, mas mais do que isso, a nossa concorrência está lá fora. Neste caso, o nosso campeonato do mundo é os próximos 3 jogos, isso é que é a verdadeira concorrência, e quem estiver lá dentro vai dar o melhor para Portugal, de certeza.
O Renato faz uma longa temporada, 42 jogos pelo Villarreal, joga Liga dos Campeões, faz top 3 da La Liga. Quão exigente e quão desafiante vai ser, depois desta época tão longa, fazer uma grande competição, a primeira grande competição?
Acho que hoje em dia há cada vez mais jogos, mas também nós tentamos preparar-nos da melhor forma para tal. Mas acho que para disputar um campeonato do mundo não falta motivação e certamente não faltarão baterias. Portanto, olhamos todos com uma grande ambição e a tentar fazer o melhor para Portugal acima de tudo.
Gostava de perguntar, no jogo de sábado notou-se que ainda estavam a ser testadas algumas ideias e soluções para a equipa. Gostava de saber se perante a Nigéria a ideia é ainda experimentar algumas opções ou se já estão a trabalhar perante uma base que é próxima daquilo que esperam apresentar no início da competição.
Bom, honestamente, acho que isso cabe ao Mister. Obviamente que ainda são jogos de preparação e, acima de tudo, estamos a preparar para os próximos jogos que aí vêm, os próximos 3 jogos, e estes jogos servem para experimentar, para trabalhar os nossos conceitos que temos estado a trabalhar no dia-a-dia aqui na cidade do futebol, acima de tudo para preparar os próximos jogos que aí vêm.
Cumpre-se hoje exatamente um ano da conquista da Liga das Nações. Não sei se isso já terá sido conversa e alvo de algum revisito ao passado internamente no vosso grupo. Gostava de perguntar, na altura entrou ao minuto 70, já muitos jogos passaram desde então, que diferenças há no jogador Renato Veiga de há um ano para agora?
Vou-lhe ser honesto. Primeiro, quando o Chico disse-me que eu vinha fazer a conferência hoje, fiquei feliz porque faz exatamente um ano desde o meu primeiro troféu pela seleção, falando individualmente, e óbvio, foi um momento muito especial, mesmo sempre que falo, tempo ponho com pele de galinha, e fico feliz por estar aqui a fazer a conferência de imprensa, a preparar um Mundial um ano depois desse grande dia. Diferenças, só de pensar nisso, diferenças no jogador, acho que este foi um ano em que joguei muito e era algo que eu procurava, e portanto tudo o que vem com o jogo acho que é muito importante, e acho que o jogar e ter rotação durante o ano acho que é muito importante para um jogador, principalmente com a minha idade, e acho que este foi um ano muito importante para mim nesse aspecto, para crescer, para ter alguma continuidade que se calhar nestes últimos 2 aninhos não tive, porque fiz 6 meses nas Juventus, 6 meses no Chelsea, e agora consegui fazer uma época inteira, e acho que isso ajudou-me muito a crescer, e acho que foi importante. Deixa-me aqui um pouco sensível com isto do que aconteceu há um ano, mas pronto, acho que é isso.
É a primeira vez que vai disputar um Mundial pela seleção e vai usar a camisola número 13, uma camisola mítica de Portugal que usou Eusébio no Mundial de 1966. Queria lhe perguntar o que é que isto representa para si, se sente que carrega algum peso por ter este número icónico da seleção. O que é que representa para si, Gabriel?
Não digo peso, acima de tudo digo um privilégio, obviamente, portar uma camisola já muito pesada, que é a de Portugal, com um número icónico. Mas não digo um peso, mas sim, se calhar, uma motivação extra. Acho que passa apenas por aí.
Percebeu que é um jogador de emoções fortes. Talvez por isso esteve também ali na linha da frente, naquele lance que levou à expulsão do Rafael Leão. Como é que explica, a quem não percebe, como é que uma coisa destas acontece num jogo particular, aquilo que aconteceu?
Acho que o que aconteceu espelha muito daquilo que é o nosso balneário. Obviamente que há que ter cabeça fria sempre, mas independentemente de ser um particular ou não, quando um dos nossos, neste caso, estava num conflito, o outro que estava mais perto foi ajudar. Neste caso foi o Rafa. E foi proteger o adversário, foi proteger o colega, e eu, neste caso, fui tentar proteger os que já estavam lá. Portanto, nós protegemos uns aos outros, como disse anteriormente, a nossa maior virtude e o nosso maior trunfo é o balneário e, portanto, nós estamos aqui para nos proteger uns aos outros, independentemente de quem esteja do outro lado.
No último Mundial, tu estavas na Liga 3, na equipa B do Sporting. Entretanto, saíste e passaste por 5 clubes em 5 países diferentes. E normalmente esta falta de estabilidade não se coaduna com o melhor desempenho para um jogador. Como é que lidaste com tudo isto nestes últimos anos e culminar todas estas mudanças com a presença no Mundial?
Desde o tempo que estava na Liga 3 até hoje, acho que cresci muito. Passei por muitos sítios. O que fez-me criar esta bagagem que levo hoje, de muitas experiências, de várias culturas, de vários países, de dificuldades, de vitórias, de tanta coisa junta, que faz-me ser a pessoa e o jogador que sou hoje e que espero que ainda esteja muito longe daquilo que eu ambiciono, porque eu ambiciono verdadeiramente muito alto e trabalho para tal. E, portanto, acho que experiências pelas quais já passei e experiências que me fizeram a pessoa e o jogador que sou hoje, acho que foi muito positivo, acho que fez-me muito bem, mas ainda estou muito longe daquilo que ambiciono ser.
Toda a gente aponta Portugal como um dos favoritos à conquista do Mundial. Acha que é favorito ou só candidato?
Eu acho que não há que fugir à qualidade de Portugal. Acho que somos candidatos favoritos. Acho que não, acho que somos candidatos apenas.
Para a Liga das Nações, pergunto-lhe, desde então, o Renato ter feito o seu percurso pela seleção, vai agora estrear-se numa grande competição por Portugal, o que é que mudou no Renato, não só como jogador, mas também como pessoa, e se também está um pouco ansioso para esta estreia numa grande competição por Portugal? Obrigado.
Pois, acho que desde então, como pessoa, acho que sou uma pessoa que tem os valores muito acentes. Isso também deve-se, pode ser, entre aspas, ao background da minha família, e que tenho as coisas muito claras. Como jogador, acho que, acima de tudo, é a maturidade, e acho que este ano fez-me bem o jogar constantemente e competir a um alto nível, como foi no Vila Real, e fazer a época que a minha equipa fizemos. Acho que isso ajudou-me muito, ajudou-me a estar preparado, e acho que acima de tudo é a maturidade e a rotatividade.
Desde 2022, quando saíste do Sporting, jogaste já em 5 países: Suíça, Alemanha, Itália, Inglaterra, agora Espanha. Este ano disseste que foi um pouco mais constante, conseguiste fazer uma época completa. Mas eu também te pergunto, essa experiência por diversos países, por diversos campeonatos, por diversos contextos, pode ser uma mais-valia para um contexto de uma prova de seleções em que apanhamos equipas com estilos de jogos diferentes?
Obviamente que o passar em 5 países diferentes e diferentes culturas, diferentes campeonatos, enriquece o jogador, independentemente de quem seja, e acho que passa muito por enriquecer o Renato jogador e não tanto olhar para os adversários, para as outras seleções, que isso acho que são duas coisas diferentes. Acho que acima de tudo enriquece-me a mim e aporta-me bagagem à minha pessoa como jogador, acima de tudo.
O Renato é um jogador que pode fazer várias posições, por isso pergunto-lhe taticamente qual é que é a posição onde se sente mais confortável e também de que forma que a polivalência lhe ajudou a crescer nos últimos tempos como jogador. Obrigado.
Sim, a posição onde me sinto mais confortável é certamente central, mas obviamente estou preparado para jogar onde o Mister acho que seja a melhor posição, tanto eu como os meus companheiros, e obviamente que jogar em diferentes posições ajuda-nos a entender diversas formas do jogo e a ler diversas formas do jogo, porque cada posição requer competências diferentes, e acho que isso, acho que nada tem de mal, acho que só aporta coisas boas e positivas para enriquecer-me cada vez mais como jogador.
Aí está o essencial da conferência de imprensa de Renato Veiga, jogador do Vila Real. Esta tarde foi o porta-voz do grupo, falou de várias coisas como teve a oportunidade de ouvir. Entretanto, em relação à seleção francesa, dizer que Michael Olise já marcou outra vez, 2-0, vai vencendo a França à Irlanda do Norte. Em relação ao Uzbequistão, adversário de Portugal, no segundo jogo do Mundial, está a perder 1-0 com os Países Baixos. Só para fechar, enfim, esta página de dedicada à seleção portuguesa, Fabián, já tínhamos falado de um bocadinho fora nos bastidores, tampon-se quase a parede justo com demi-final.
Moi, je pense que...
Si elle ne rencontre pas la France, c'est ça?
Non, le Portugal est une nation qui, pour moi, qui fait partie des favoris. Voilà. Alors après, sur des matchs comme ça, contre des nations qui sont proches les unes des autres, savoir qui va gagner, c'est toujours difficile. Il y a une part de réussite. Voilà, donc... Non, la France, le Portugal, l'Espagne, l'Allemagne, voilà, le Brésil peut-être, même si je les ai trouvés un petit peu décevants contre la France, mais c'est des nations qui sont favorites et je pense que le Portugal a le potentiel pour gagner le mondial parce qu'intrinsèquement, c'est des très bons joueurs. Après, il faudra faire attention à la gestion de l'effectif, ce que disait Tonnel à juste titre. Il y a des joueurs qui ont une saison très longue et difficile. On l'a vu en début de saison avec beaucoup de blessures parce qu'il y avait une saison encore avant avec le mondial des clubs, ça a pesé. Donc les organismes ont un petit peu cédé. Et là, c'est un peu la même idée. Hein. Ils ont fini il y a pas longtemps. Ça les a beaucoup sollicités physiquement, psychologiquement, etc. Donc il faut qu'il y ait une forme de coupure. Et je pense que sur la phase de groupe, c'est important de bien gérer ça. Voilà, ce qu'a très bien fait Luis Enrique, mais par rapport au club, hein, on a vu des compositions d'équipe en début de championnat qui étaient quand même loin de ce qui s'est fait sur la fin. Donc ça lui a donné raison. Là, c'est un peu la même idée. Faut bien gérer le potentiel athlétique et mental, et voilà. Et ça sera une des clés. Après, ils ont intrinsèquement le niveau des tout meilleurs. Voilà.
Muito bem, antes ainda só de falar da França, gostava de lançar também o Marco, desculpa, no, em relação à seleção de Cabo Verde, que é uma seleção também muito querida para nós, lusófonos. O que é que te parece que esta seleção de Cabo Verde pode-se fazer, Marco?
Esta primeira ronda, fase de grupos...
Tem potencial para chegar à segunda volta.
É isso, é que é interessante é que, ao fim e ao cabo, só os últimos é que acabam eliminados e nem sequer um terço dos terceiros. Quer dizer que pode-se perder os dois primeiros jogos, até pode-se empatar no último e conseguir o apuramento de qualquer modo.
Dependendo
as novas regras da UEFA, da FIFA, com 48 equipas, com 16 avos de final. Recordamos todos que Portugal foi um dos melhores terceiros no Europeu de 2016, que acaba por vencer. Então eu acredito muito que Cabo Verde possa terminar nos três primeiros. Frente à Espanha, frente ao Uruguai, não acredito que eles possam vencer. Mesmo se frente ao Uruguai, o Uruguai também não é o que era antes, em termos de equipa, de estrelas que estão nessa equipa. Poderia Cabo Verde ir buscar, por exemplo, um empate. Eu acredito muito é no jogo frente à Arábia Saudita. A Arábia Saudita que perdeu recentemente Hervé Renard, um novo selecionador há poucas semanas do início de uma prova assim. Eu acho que Cabo Verde pode conseguir ir buscar os três pontos. E com três ou quatro pontos, eu acredito que estarão obrigatoriamente na próxima fase. Vê-se frente à Sérvia, ok, era um jogo amigável e a Sérvia também está em fase de reconstrução completa, mas Cabo Verde mostrou a ter elementos interessantes, muitos elementos que passaram pela França. Eu estou a pensar no Nuno da Costa, no Ryan Mendes, no Logan Costa, o eterno capitão Vozinha na baliza, Stopira, que é novamente jovem, ele já tem mais de 30 anos, que parecia ter terminado a carreira, voltou para o Torriense e acaba por dar a vitória à frente ao Sporting, apesar de eles não subirem à primeira divisão. E eu acho que isso é um objetivo que vai ficar um bocadinho atravessado na garganta, os jogadores do Torriense e de Stopira. Mas quer dizer, há uma mistura de jovens jogadores com mais experientes, e eu acho que podem conseguir um brilharete a partir dos 16 avos. Será sempre complicado, é a fase de eliminação direta. Mas eu acho que Cabo Verde tem, pelo menos, as capacidades para poder seguir em frente.
Fabien, tu as une petite idée sur Cabo Verde, qu'est-ce qu'il peut faire? Non, pas trop.
Non, après, ces nations-là, vu que la Coupe du Monde a élargi en termes d'équipe, ce qui fait que ça nivelle un peu le niveau général vers le bas, et je pense que les phases à élimination au départ des groupes... vont faire un petit tri, mais les choses sérieuses vont commencer à partir des huitièmes, je pense, parce que même les sorties de poule, les premiers, le 16e, ça risque d'être, les favoris devraient être protégés. Et donc, les choses sérieuses devraient commencer à partir des huitièmes, et dans les phases de poule, il y aura forcément quelques surprises. Ça peut en être une, mais après, ça risque d'être compliqué pour ce genre de nations, quoi.
Est-ce que c'est quand même compliqué pour les nations qui ne sont pas présentes? Quand il y a 48, le Cap-Vert a par exemple éliminé le Cameroun, mythique Cameroun, la RDC, République démocratique du Congo, élimine le Nigeria, Haïti est présent, la Jamaïque ne l'est pas, n'est pas là non plus, je crois que c'est le Costa Rica, si je me trompe pas. Des équipes qu'on a déjà vues au Mondiaux, on se disait il y a peut-être un petit potentiel. L'Italie aussi n'est pas présente. Et quand il y en a 48 et on se dit bah il y a de plus en plus de sélections, il y a Curaçao qui est présent, il y a l'Ouzbékistan qui est présent, il y a même le Cap-Vert qui est présent, mais pas ces grandes nations qui ont déjà brillé en Coupe du Monde.
Alors, des grandes, je dirais l'Italie, bien évidemment, parce qu'ils l'ont gagné 4 fois. Donc, c'est le représentant qui manque vraiment.
C'est l'unique, d'ailleurs, le champion du monde qui n'y sera pas.
Voilà. Le Cameroun aussi, c'est une très grande nation. Donc, ça, je suis d'accord. Après, pour le reste, bon, c'est un petit peu moins d'accord. Il y a des générations qui sont un petit peu moins bonnes. Mais c'est vrai que le Cameroun, c'est une très grosse déception, une très grosse surprise. L'Italie, j'en parle même pas. Mais bon, après, l'Italie... avoir eu pendant tellement d'années beaucoup d'étrangers, ça les a pas aidés. Donc et puis après au niveau de la formation, c'est plus ce que c'était aussi. Donc je pense qu'ils récoltent un petit peu le fruit de leur non travail, si je puis dire ainsi. Et après pour revenir à des nations comme le Cap-Vert, etc. À partir du moment où il y a des poules qui sont on prend la poule du Portugal, Ouzbékistan,
Colombie
et la RDC.
Bon, si la Colombie joue pas son rôle, il peut y avoir une surprise. Et puis avec un meilleur troisième aussi, donc forcément il y aura des équipes, on va dire des nations d'un deuxième, troisième, voire quatrième rang qui risque de passer quand même. Donc ça fera un 16e de finale contre ce genre d'équipe pour des grosses nations. Ça sera pas trop compliqué. Voilà.
Bon, on avance avec la France. On va laisser Eric et Fabien, on s'en va. Allez, les deux Français, là, de service. Non, Fabien, alors la France, gros potentiel.
Ouais.
Principal favori ou pas?
Pour moi, c'est l'équipe la plus talentueuse, avec le plus gros de qualité individuelle. Voilà. Alors, pas forcément partout, mais sur le plan offensif, il n'y a pas mieux, en fait. Parce que le Portugal a beaucoup de qualité aussi, milieu de terrain, qui est au moins aussi bon, peut-être même meilleur. Mais ce qui est important, c'est l'aspect offensif. Et ce qui est dur dans le foot, c'est de marquer des buts. Et là, sur le plan offensif, ils ont énormément de joueurs de qualité. Donc, pour moi, sur le plan offensif, c'est la meilleure nation de loin. Voilà, c'est vraiment la meilleure nation. Alors après, est-ce que c'est eux qui gagneront la Coupe du Monde? Je sais pas, mais en tout cas...
On parlait un petit peu aussi des histoires d'ego tout à l'heure. Est-ce que ça peut jouer un peu le rôle ou pas?
Bah, ça peut jouer, mais maintenant, ils vont tous jouer. Ils participeront tous, je pense, que ce soit soit en rentrant, soit en démarrant. Mais bon, et puis sur une Coupe du Monde, avec surtout les phases de poule où forcément il fera tourner, parce que bon, je pense qu'il risque de se qualifier après la deuxième journée. Voilà, après, c'est une gestion. Le sélectionneur Didier Deschamps est quand même pas mal habitué à ce genre d'exercice. Il gère bien, il préfère aussi...
Il avait peut-être un peu plus de certitude, non, Fabien, sur l'attaque? Parce que là, c'est vrai que quand on voit tous les noms qui sont présents... On se dit, il y en a pas que 3 ou 4, il peut y en avoir 6, 7 qui peuvent prétendre. Alors que d'habitude, il y avait quand même un format. On a eu des Coupes du Monde, il y avait Giroud, on savait qu'il était là, Kylian Mbappé était là, voilà, ça faisait déjà 2 sur 3 qui étaient sûrs. Là, on se demande si autour de Kylian Mbappé, peut-être Ousmane Dembélé, mais tous les autres, ils se sentent peut-être au même niveau.
Olise, pour moi, il y en a 3 qui se dégagent. Olise, c'est quasiment sûr, avec la saison qu'il a faite, avec le Bayern et ce qu'il démontre, et puis encore ce soir, c'est lui qui met les deux. Donc pour moi, Olise est partant sûr. Dembélé, par rapport à ce qu'il a fait depuis 2 ans au PSG, il est partant sûr. Et Mbappé, il est partant sûr. Donc il reste plus qu'une place. Pour moi, il reste
place. Tu jouerais avec 4 devant?
Moi, je pense qu'il va jouer avec 4 devant.
4-2-4. Espèce de 4-2-4 avec peut-être Olise qui recule un petit peu.
Plutôt 4-4-2. Parce que Olise défend sur son côté, il va mettre Doué parce que c'est quelqu'un qui a du volume, donc je pense qu'il va mettre plutôt Doué plutôt que Barcola qui défend moins, qui est plus un attaquant de rupture que Doué. Il pourrait jouer même troisième milieu de terrain, qui a du volume, donc je pense qu'il va partir avec les 3 sûrs et très certainement mettre Doué sur le côté gauche, comme il l'a fait. Je pense que c'est son quatuor. Et s'il décide d'en enlever un devant, il mettra Cherki.
Et donc, il y a Cherki sur le banc, il y a Barcola sur le banc, il y a Mateta sur le banc, il y a Thuram sur le banc.
Mateta, Thuram, je pense qu'ils partent derrière tous les autres. c'est mon avis.
Ça va pas être frustrant pour ces joueurs-là, qui, surtout Thuram qui était complètement titulaire depuis depuis de longues, depuis ouais. le départ à peu près de
ouais,
de
mais je pense que sur les matchs importants, je parle pas sur les phases de poule où ça sera une équipe, on va dire, troisième rang, quatrième rang, pas trop entre guillemets dangereuse. Je pense qu'il va partir avec ses tout meilleurs sur des matchs où il faudra qu'il gagne, et je parle même pas des matchs coup près où là ça sera sûr. Sur les matchs coup près, il va mettre les quatre de devant, ou il rajoutera Cherki, il enlèvera un joueur. Donc il mettra, ou alors un milieu travailleur à trois, mais il mettra peut-être trois attaquants, donc trois des quatre, Doué, Dembélé, Mbappé et Olysée, et je pense que ça sera Doué qui en fera les frais. Et s'il joue avec trois milieux de terrain travailleurs, parce qu'il craint un peu l'équipe adverse, il mettra un Rabiot, Tchouaméni, Koné ou N'Golo Kanté, un milieu travailleur. Ou s'il pense qu'il va avoir la maîtrise, il mettra plutôt un Cherki avec plutôt créateur.
Mais pas de frustration. Je pense qu'il n'y aura pas de frustration, parce que j'ai en plus oublié Randal Kolo Muani, qui était en finale de Coupe du Monde, si je me rappelle bien, il était titulaire face à l'Argentine, il y a 4 ans. Gérer tous ses égos. Barcola qui peut dire, oui, je suis quand même double champion d'Europe également, avec le Paris Saint-Germain. Chacun va mettre un peu son statut. À Cliouche qui vient et qui veut justement peut-être se montrer après une saison d'Annecy avec Monaco.
Ouais, mais vu les joueurs qu'il y a devant, je pense que c'est pas des joueurs.
Deschamps a du mal quand même à gérer ses problèmes d'égo quand il en a eu. Benzema en 2022 finit par quitter l'équipe.
Benzema, il avait un statut différent quand même, parce que c'était quand même au Real Madrid, 10 ans Real, titulaire, 4 fois la Ligue des Champions. Bon, voilà. Là, il n'y en a pas des comme ça. Donc, il n'y a que Mbappé, mais Mbappé, il joue tout le temps. Donc il n'y a pas des profils Benzema. Donc, après, les autres, bah, Barcola, il est quand même sur les gros matchs remplaçants. Donc, il passe après Doué, José Luis Enrique, il passe après Dembélé, donc, bon, après, Xvara aussi. Donc, on va dire que, bien sûr qu'il ne sera pas forcément très content, mais bon, c'est pas non plus illogique. Et puis, vu ce qu'il y a devant qui joue, c'est pas non plus illogique. Hein. Quand il voit qu'il y a Olysée, Mbappé, Dembélé et Doué qui est devant lui au PSG, je pense pas qu'il puisse revendiquer quoi que ce soit. Les autres, c'est pareil. Thuram, je vois pas pourquoi il revendiquerait, même s'ils sont tous déçus de pas jouer. Et puis Deschamps, il gère bien quand même. Je trouve que c'est quelqu'un qui gère bien l'effectif, qui gère bien aussi l'état d'esprit. Et il se préserve de ça et il prend des joueurs en conséquence aussi. Bah, il n'y en a pas beaucoup des plus forts dans le monde.
Je vais dire une dinguerie. Camavinga, à gauche, ça aurait pas pu être toujours un nouveau pari. Il n'avait pas non plus été, entre guillemets, si mauvais que ça dans ce côté gauche. Il aurait pu ensuite dépanner sur une défense un peu modulable et se retrouver
moi,
au milieu.
Je trouve que c'est difficile de prendre un joueur qui n'est pas son réel poste. Donc pour dépanner, je peux l'entendre sur un match, il n'y a pas le choix, il n'y a plus de changement, etc. Il faut trouver une solution, voilà. Mais démarrer avec des joueurs qui ne sont pas, entre guillemets, habitués au poste, c'est un peu plus compliqué. Donc Lucas Digne s'explique, Théo Hernandez, ça s'entend, Lucas Hernandez, ces profils-là, c'est des joueurs qui, c'est leur poste de prédilection. Ça, c'est pas des... Parce que Camavinga, c'est pas un latéral gauche de métier, quoi.
Il y a une surprise ou pas dans cette sélection, ou un joueur que tu aurais préféré, vu qu'on est tous sélectionneurs, comme on disait au
oui,
Portugal.
Oui, non, mais c'est sûr. Comme ça, qui me vient à l'esprit, je trouve pas. Moi, j'aurais pris. Alors sur le plan offensif, j'aurais pris bien sûr tous ceux qui sont amenés à jouer ou qui seront amenés à rentrer. Après, Thuram, j'aurais peut-être pas forcément pris. Voilà, à Cliouche, pas forcément. Mais j'entends que c'est des profils qui plaisent parce qu'ils sont pas loin. Ils sont entre guillemets, le 21, 22, 23e et le 24, 25, 26e. Ça ne joue à pas grand-chose. Il y a 18 titulaires ou 18 joueurs qui, dans la tête de Deschamps, sont sûrs. Et puis après, ça joue entre 10 où il y a 4, 5 places.
C'est ça, c'était sur les sûrs. Mais quand on regarde la défense et les gardiens, 3e gardien pour Risser. D'autres étaient présents et sont sortis de la liste. Maxence Lacroix en défense aussi, qui était récemment mis dans l'équipe.
Alors là, encore une fois, je pense que c'est juste une question, encore une fois, plutôt par rapport au fait qu'il y a une gestion de groupe. Et si vous prenez trois gardiens numéro un, c'est compliqué. Et je pense que Risser, il est content d'être là. C'est mieux qu'un numéro 1 qui est pas content d'être là et qui se retrouve numéro 3. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Donc parfois les entraîneurs ont fait des choix comme ça, c'est-à-dire que moi par exemple ça m'est arrivé de prendre un 16e bon, qu'il y a des peu de chances qu'il puisse rentrer pour différentes raisons. Normalement, il rentre pas, mais bon, je valorise sa semaine, je valorise ce comportement, et puis ça lui fait aussi goûter à l'équipe, plutôt qu'un joueur qui est habitué à jouer et qui serait déçu de jouer 5 minutes. Donc ça tirerait pas le groupe vers le haut, et en fait, on a un joueur qui est content d'être là, qui est sur le banc, qui pousse les autres, qui encourage et qui est heureux, et il y a celui qui fait la tronche.
Hugo Lloris qui est déjà aux États-Unis, qui a dit pourquoi pas être le troisième gardien et qui se serait contenté d'être troisième gardien.
Ça aurait été pesant pour le numéro 1 parce que c'est un joueur qui a été tellement de fois 150 sections ou 145, je ne sais plus, le plus capé de l'histoire de l'équipe de France, qui a été capitaine des années, qui a gagné la Coupe du Monde. Forcément, ça pèse et ça joue dans la tête du numéro 1 où il est forcément, ça joue.
Parce qu'il y a des sélections quand même qui ont fait des cadeaux. Le Brésil, on pense au Brésil à Neymar, on a vraiment un doute qu'il puisse jouer. Et ça sera un peu l'ombre aussi de certains joueurs comme Hendrik, Vinicius, de se dire, ah, il y a quand même Neymar qui peut peut-être ou pas.
Je suis pas pareil, je pense pas comme toi. Je pense que Neymar, lui, même si sur le plan physique il est plus que c'était, par son talent, il est capable de te faire une différence. Donc s'il joue 15-20 minutes, mais comment dire, pour en venir au gardien Hugo Lloris, c'est pas pareil, il y a peu de chances qu'il rentre. Donc ça soit sur le banc avec le statut et le passé qu'il a, toute une Coupe du Monde, ça serait quand même plus difficile à accepter, à vivre, et c'est mieux d'anticiper, de penser à l'avenir aussi, parce que bon, c'est peut-être un avenir aussi, peut-être il le voit un gros potentiel, et de le faire goûter dans un premier temps numéro 3. Et logiquement, quand t'es numéro 3, il y a peu de chances que tu joues.
Bon, moi je peux pas être l'oiseau de mauvaise augure, mais bon, je vais porter le petit. Est-ce que l'ordre des matchs, il peut quand même être finalement un petit casse-tête pour Didier Deschamps, en sachant que tu joues d'abord le Sénégal, qui est bon. Même si peu ou prou, on ne sait pas, mais normalement c'est le champion d'Afrique. Ensuite, donc bon, l'Irak, que tout le monde pense que ça va être finalement facile, mais quand on voit qu'ils ont fait match nul contre l'Espagne, est-ce que peut-être on se trompe? Et on termine avec la Norvège, avec le cyborg devant avec Erling Haaland. Est-ce que justement la conjoncture de ces matchs-là peut faire que finalement la situation de la France ne sera pas si simple à mener aux États-Unis?
Moi, je pense que maintenant, dans le football moderne, tous les matchs sont difficiles. Maintenant, c'est vrai que la France, sur ces trois matchs-là, ils ont quand même une marge. Voilà, donc je pense qu'ils ont logiquement, ils devraient assurer la qualification après les deux premiers matchs. Voilà, donc je pense que ce sera pas logiquement, il n'y aura pas de piège, parce que s'ils prennent les matchs au sérieux, avec la qualité individuelle, on vient de le voir à l'instant avec encore le but magnifique d'Olysée, c'est pas une action construite, hein, c'est une action individuelle de classe. Voilà, donc et le but, il le met tout seul, c'est pas du tout une action collective. Donc il y a tellement de talent dans cette équipe que bon, je pense pas qu'il y a beaucoup de nations qui peuvent les inquiéter, surtout sur des nations bien en dessous de leur niveau.
Mais tu crois justement qu'ils vont réussir après à s'entendre, parce que imagine, pour X raison, le Sénégal mène et d'un coup, comme tu dis, une action individuelle, faut que ça vienne de quelqu'un. Pourquoi pas, Olysée, là, il l'a fait. Est-ce que Mbappé va se dire aussi, attends, moi aussi, je peux faire le coup d'éclat? Enfin, tout le monde va vouloir peut-être faire sa partition et oublier un peu les autres.
Je pense pas, parce que ils sont quand même, même si ils ont beaucoup d'ego, ce sont des joueurs qui jouent quand même assez juste. Olysée, là, son action individuelle, elle est appropriée. Il rentre intérieur, voilà, il fixe bien, il enroule bien et, il y a pas vraiment. Ils ont tous intérêt à faire passer le collectif avant l'individu, et individuellement ils seront récompensés. Donc je ne pense pas que ce problème arrivera, et je pense que Deschamps est assez expérimenté pour bien leur faire comprendre. Et dans le cas où justement le joueur il exagère, je pense que dans les actions individuelles, je pense qu'il saura lui faire la remarque et son temps de jeu risquerait d'être réduit.
Très bien, on arrive tout de suite, on a 30 secondes. Le sponsor au patrocinio da emissão, Jean Fortemps.
Tribune do Mundial. O programa Tribuna Desportiva tem o patrocínio
SND. la société Nouvelle de Balestière vous propose une large gamme de produits alluvionnaires, calcaires et recyclés. Retrouvez chez nous tous les granulats nécessaires pour le BTP, ainsi que les plateformes d'accueil de vos terres et de béton issues de la déconstruction, avec possibilité d'éco-minéraux. SNB, présente depuis 1967, mettra toujours à votre disposition ses équipes professionnelles pour un conseil adapté à vos besoins. Ayez le réflexe SNB pour vos sables, gravillons et terres. SNB, la société Nouvelle de Balestière, toujours à vos côtés pour aller plus loin.
Estamos na reta final da nossa emissão de hoje. Daqui a pouco vamos fazer um pequeno quiz com o Henrique, se eu não estou em erro, mas antes ainda do pequeno quiz, só para fechar a seleção francesa, Fabien, encore quelque chose sur cette sélection?
Deixa-me só dizer que a França está a ganhar 3-1.
Exato, grande gol do Olise.
Sim, pois, 3 gols. Hat-trick.
Fabien, juste pour en finir avec la France.
On a à peu près tout dit. Beaucoup de qualités individuelles. On l'a vu ce soir avec Olise qui est capable de faire des différences individuellement et de marquer des buts sur du talent individuel. La France, je reste persuadé qu'ils seront pas loin du bout. Après, c'est une question de gestion. Il y aura une part de réussite aussi, mais ça sera lié aussi à l'état d'esprit qu'ils vont mettre. Souvent, on peut prendre l'exemple du PSG. Ça s'est joué souvent à pas grand-chose, mais ça a toujours basculé de leur côté parce que en termes mental et d'état d'esprit et de cohésion et d'équipe, c'est ce qui a transpiré de leur match et c'est ce qui a fait la différence sur les matchs un petit peu très 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 équilibrés.
Donc on peut parier ou pas? Pas tout de suite.
Non, attends, je veux juste qu'on parle un petit peu de... Je vais vous mettre un petit peu... En train de parler un petit peu de la sélection du Brésil, Marc, pode começar tu, sobre o Brasil, o que é que pode fazer este Brasil com o Carlo Ancelotti.
Tenho pouca esperança. Eu sinceramente tenho pouca esperança. Não percebi...
Com os homens do Arsenal...
Não percebi, mesmo se eu percebi o que disse o Fabien em relação ao Neymar, mesmo assim eu acho que tem que ter mais meritocracia, e até agora ele tinha feito isso muito bem, o Carlo Ancelotti, e acho que ele sofreu da pressão do público da federação, porque... Um pouco como Cristiano Ronaldo, cuidado, não no facto de o levar por mérito. Cristiano Ronaldo fez uma temporada excepcional em relação ao Neymar, mas aquela pressão de quem traz patrocinadores é o Neymar. Toda a gente queria o Neymar nesta seleção.
E costuma dizer-se na seleção do Brasil que manda são os patrocinadores.
Exato. E eu acho que o Carlo Ancelotti leva, como disse o Fabien, o Neymar pode fazer diferenças a qualquer momento, sim, mas se ele joga. E por enquanto, ele está novamente, como sempre, lesionado. E não sabe quando ele vai regressar. Há um comunicado hoje que saiu, em que dizem que ele deverá recuperar para o primeiro jogo do Mundial. Veremos, pode ser útil até só na final, se o Brasil consegue chegar lá, mas eu tenho algumas dúvidas com esta equipa que tem muitos avançados. Para mim nenhum é talvez titular indiscutível, talvez o Rafinha, entre eles, mas depois entre Hendrix, entre outros jogadores que estão...
Vinícius, deve ser uma das seleções do brasileiros que passaram no Mundial, uma das mais fracas da história.
Sim, mas... Em termos de nova é um insulto dizer que há um nova aqui que seja interessante em relação a todos que eles tiveram.
Para quem se lembra daquelas seleções
Bebeto,
malucas,
Romário, Ronaldo, Rivaldo,
recheada até no banco, era só craques e daí qual, onde está o nosso Brasil?
O Hendrick brilhou em França, brilhou no Lyon num campeonato que, desculpem, mas é um campeonato que na sua regra geral está mais fraco do que os anos passados, sem ser o Paris Saint-Germain que está sempre em cima, mas o resto é de um nível inferior.
Tinhas aquela esperança de ter justamente aquela estrela, aquele craque do futuro, tipo Hendrick, tipo Estevão. Onde é que eles estão?
O Estevão está lesionado, o Rodrigo já não me recordo, acho que não foi chamado, também voltava de lesão. Não sei, esta equipa ainda por cima, sem ser os avançados que são, têm um certo nível, são bons, não há outra palavra. Mas no meio campo ainda vai...
A bola chegar lá, não é?
Ainda vai o Fabinho. O Fabinho que está jogando na Arábia Saudita, tem 32 anos.
Fabinho,
ainda vai... Esta defesa também, para mim, os laterais é ainda bem pior do que a França. A França tem bons laterais, bons. A palavra é bons. Mas o Brasil, quem é que ele tem como laterais? Alexandro, ainda se lembram? O jogador que passou pelo Futebol Clube do Porto ainda foi chamado para ser lateral esquerdo. 35 anos, não sei.
Não, moi je pense que c'est ce que je disais par rapport à l'équipe de France, c'est là où il y a une grande différence, c'est qu'au Brésil, quels sont les joueurs au poste qui sont des top joueurs mondiaux? Il n'y en a pas beaucoup.
Les autres attaquants.
Il y a
Real Madrid,
Vinicius. Vinicius.
Oui, mais par rapport aux autres sélections brésiliennes qu'on a connues.
Deux devant, c'est pour moi Rafinha, Vinicius, le reste.
Et puis, ce n'est pas des neufs.
Voilà, ce n'est pas des neufs, c'est des excentrés. Donc, sur les côtés, c'est bien. Après, au milieu de terrain, moi, je trouve très moyen.
Je trouve que c'est un désert de Gobi. Et il y a Bruno Guimarães qui est plutôt bon avec Newcastle. Il y a Casemiro.
C'est pas du Casemiro.
Voilà, Lucas Paqueta.
Ne peut plus courir. Donc c'est,
qui est reparti au Brésil.
Pour moi, je les trouve quand même bien en dessous du top mondial pour battre des nations secondaires où voilà, ça va aller. Mais après, derrière, c'est pareil. Les latéraux, c'est moyen. Enfin, c'est des bons joueurs, mais c'est pas du niveau des meilleures nations mondiales. Moi, je trouve qu'ils sont quand même ils sont un peu limités.
Voilà, les adversaires sont finalement, en fait, de nom, ils ne sont pas énormes, mais ce sont des blocs difficiles à bouger. Maroc et Écosse. Maroc qui joue défensif, contre-attaque et qui a fait mouche lors du dernier mondial. L'Écosse qui sont hyper physiques, qui vont également jouer bloc bas. Et le Brésil a du mal à bouger ce genre de bloc. Et puis les Haïtiens, finalement, ils sont là. Tout pour eux est fantastique. Donc, moi, je ne sais pas, finalement, le groupe du Brésil, c'est peut-être un groupe qui peut leur compliquer un peu la tâche.
Alors, je mets un bémol. Je pense qu'ils vont passer. La phase de poule, ils vont passer ces éliminations-là, mais après, au-delà, ça risque d'être compliqué pour eux, ça va se compliquer. Donc en 16e, je pense que s'ils tombent une équipe, un club, enfin une nation moyennasse, pour pas dire moins bien, donc ça devrait passer, mais dès qu'ils vont tomber des nations un peu solides, et je parle pas des toutes meilleures, ça va se compliquer pour eux. Donc je pense qu'après, ça sera plus dur. Mais de là à se faire éliminer en poule, non. Au 16e, je pense pas non plus. Mais à partir des 8e, ça va se compliquer pour eux. S'ils tombent une équipe bien organisée, avec un peu de talent, ils peuvent se faire surprendre.
Eric, c'est à toi. Jouer.
Ça y est ?
Oui.
On peut y aller ?
6 minutes.
Bah, c'est un petit quiz pour lancer la Coupe du Monde, hein, même si bon, moi personnellement j'avoue que j'ai du mal à m'y mettre. Donc on va commencer. Bon, l'Argentine. Voilà, on va faire ça en français, comme ça Fabien aussi participe.
Alors juste en 16e, c'est le Brésil pourrait jouer l'une de ses équipes. Pays-Bas, Japon, Suède, Tunisie. En 16e.
Je pense pas les Pays-Bas, parce qu'ils risquent de finir premier, mais ils peuvent se taper le Japon.
La Suède.
La Suède, ouais. Ça peut passer, mais ça se compliquera.
Ah ouais, Eric.
Allez, c'est parti. Donc, vous êtes au courant que l'Argentine a été donc le dernier vainqueur de la Coupe du Monde. Oui. Mais je sors qui a marqué le dernier penalty vainqueur de la séance. Est-ce que vous vous en souvenez ?
C'est pas McAllister ?
Non.
D'Argentine ou de France ?
De l'Argentine qui a donné la victoire. Martinez ?
Non.
À quel type d'Inter de Milan, comme ça ?
Non.
Non plus.
C'est pas Lautaro Martinez.
Pour vous aider, il a un nom un peu français et il y a eu un animateur en France qui avait ce nom-là et qui s'appelait Bernard.
Montiel.
Ouais, Gonzalo Montiel.
Il jouait à Séville.
Exactement. Qui termine meilleur buteur de la Coupe du Monde au Qatar ?
Ah, mais tu parles de la Coupe du Monde.
Non, je parle de. Tu verras, ça va te lécher.
Fabien vient de répondre.
Mbappé, avec combien de buts ?
6, je crois. 6.
Il manque 2. 8. Ouais.
Tu comptes les pénalties alors ?
Non, il a marqué 8 buts parce qu'il a fait un triplé en finale et il était déjà à 5 avant la finale. Qui détient le record de victoire ? Question simple.
En Brésil.
Coupe du Monde.
Brésil.
Combien ?
5.
Bon, il y a eu 23 Coupes du Monde organisées. Quelle nation n'a jamais manqué la Coupe du Monde ?
Brésil.
Bien joué.
Et c'est unique.
Et combien de fois le Portugal en a-t-il joué ?
7.
Non.
5.
Non.
4.
Ben non.
10.
Presque.
11.
9. Ouais. C'est la 9e qui va être là. Qui est le meilleur buteur français de l'histoire de la Coupe du Monde ?
Fontaine.
C'est juste Fontaine.
C'est encore.
Encore juste Fontaine. Et mais il y en a un petit joueur qui le suit là.
Platini ?
Non. Ah non, un petit joueur. Mbappé. Et il lui faut combien de buts pour atteindre les 13 ?
Un seul.
Un seul, exactement.
Mais juste, c'était sur une Coupe du Monde.
Juste Fontaine, ouais, c'est sur une seule Coupe du Monde.
Voilà. Personne ne le battra. Hein.
C'est le record.
Il peut le passer, mais.
Et avec l'histoire des 48 nations, ça fait plus de matchs et on peut s'en rapprocher.
Exactement.
Ouais, c'est vrai.
Parce que si tu mets 6-0 à Haïti, il y en a qui en met 5, ça peut aider quand même.
Ça peut, c'est vrai.
Ouais, ça
alors, quel champion du monde ne participe pas à cette Coupe du Monde ? Oula, ça a été sorti tout à l'heure. Ouais. C'est pas pour te faire du mal, hein, Fabien.
Mes enfants me charrient tous les jours. Donc.
Bon, le plus grand nombre, quel pays a joué le plus grand nombre de finales ?
Brésil.
Non.
L'Italie.
Non.
Argentine.
Ah, l'Allemagne.
L'Allemagne, ouais, 8 fois. Et donc 4 titres quand même, faut rappeler, 54, 74, 90, 2014, donc ça fait quand même 4 finales perdues. Mais il y a une nation qui n'a jamais gagné le mondial, qui a également perdu à 3 reprises. Les Pays-Bas. 74, 78 et 2010. Bon, combien de pays de la lusophonie participent à la Coupe du Monde?
3.
Je peux les avoir?
Oui. Cap-Vert, Brésil, Portugal.
Ben.
Et pour la combienième fois, il y a 3 pays lusophones? Et c'était quand?
C'était en Allemagne en 2016, en Angola.
Et en Angola, exactement. Donc, on a eu le Cap-Vert qui va jouer son premier mondial, justement. Donc. Mais il y a d'autres équipes. Quelles sont les autres équipes?
Curaçao.
Jordanie. Ouzbékistan.
Ishig. Alors, on va commencer par. Bon, je tombe dans les Azores. Ça, c'est.
Cap-Vert.
Donc, les requins bleus. Voilà.
Les Al-Nashama, qui veut dire. Ou braves cavaliers. Les cavaliers. Les braves cavaliers. Non, c'est la Jordanie. Ou Jloubs Brancos, qui ça peut être Jloubs Brancos.
Les loups blancs.
Ouais.
En Canada.
En original, ça fait Ok Borilar.
Ça doit être l'Ouzbékistan.
L'Ouzbékistan. Et à Onde Azul.
Non, il faut que tu dises dans leur langue.
The Blue Wave.
Então é o coração.
É o coração.
Mas eu já tenho marco, já tinha dito.
Bom, qual foi o melhor resultado de Portugal no Mundial?
Terceiro lugar.
C'est en quelle année?
66.
Mais oui. Alors, en 2006, il va falloir être rapide. Il y a 4 joueurs qui ont été dans l'équipe type du mondial en 2006. Je veux les 4.
De qui?
Mais de Portugal. Il y a 4 joueurs portugais.
Figo.
Cristiano Ronaldo.
Non. Figo 1.
Rui Costa.
Non.
Maniche
2.
Et au guarda-redes, non? Ou Vitor
Bahia. Vitor Bahia.
Non.
Ricardo.
Ouais, 3.
Falta 1.
Et falta 1 defesa central.
O Couto, não?
Não, Carvalho.
Ricardo Carvalho, exatamente. Bon, ensuite, le record de buts. Le record de buts pour le Portugal. C'est qui?
Eusebio.
Eusebio, combien?
J'ai pas le nombre. 5?
9. Ronaldo, il en a 8, donc il y a aussi une. Mais Ronaldo, il a marqué sur 5 éditions différentes. Chose que Messi n'a pas fait dans sa carrière. Parce que Messi n'avait pas marqué en 2010. Et ensuite, donc, pour finir, il y a un joueur qui est champion du monde qui a joué avec Fabien Valéry. C'est qui?
Un champion du monde?
Mais oui.
Pour quel pays?
C'était du côté de Istres en 2007-2008.
Olivier Giroud.
Ah, okay. Et pour finir, les joueurs de Lustanos qui va jouer à la Coupe du Monde, qui est formé à l'école de Lustanos, qui va jouer avec l'air. Aime beaucoup, Nathanaël, aime beaucoup avec la RDC. Et oui, magnifique.
Fabien, merci beaucoup d'être passé à la tribune.
Merci à vous.
Et grand succès, hein. À Lustanos.
Comme les hommes juste d'être, pour le Lustanos.
Bonne sorte, Thaïs. Salut les enfants.
Ciao.
Fica por aqui mais uma edição da Tribuna Desportiva. Tribuna Desportiva, que é agora a Tribuna do Mundial. Voltamos na próxima semana com mais opiniões e já dentro, claro, da fase final do Mundial.
Tribuna do Mundial.
O programa Tribuna Desportiva tem o patrocínio.
SNB, la société nouvelle de Balestier, vous propose une large gamme de produits alluvionnaires, calcaires et recyclés. SNB, toujours à vos côtés pour aller plus loin.